Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité, AAU.
Je ne sais pas si on peut commencer à... Si la régie m'entend maintenant... Si on peut juste commencer à mettre très très courte vidéo pour ouvrir la présentation. Bien, avant de commencer, j'aimerais remercier évidemment Rachel, Thomas et l'ensemble du comité d'organisation de m'avoir invité à cette conférence inaugurale. Je suis évidemment très très heureux de pouvoir la faire et je vous remercie vraiment de l'invitation. Merci également pour les présentations qui viennent juste d'être faites des ambiances et de la thématique des ambiances qui, pour moi, sont une parfaite introduction pour poursuivre ce que j'ai à dire. Alors, ma conférence s'intitule « De la sensibilité atmosphérique ». Je vais parler de l'étroite imbrication entre écologie et sensibilité. La question écologique va être au centre, effectivement. De la manière dont la sensibilité participe des enjeux socio-écologiques actuels. Au monde mélancolique du romantisme, ou à celui du désenchantement de la modernité, se substitue désormais celui de la solastalgie. Le mot a déjà été donné par Stéphanie tout à l'heure. Parler de sensibilité atmosphérique, c'est reconnaître que l'éco-anxiété transforme profondément notre sensibilité, colore l'ordinaire de nos affects et constitue en quelque sorte l'arrière-plan de nos manières d'être, de sentir et d'agir. C'est maintenant un lieu commun de dire que la crise écologique est aussi une crise de la sensibilité. Beaucoup d'auteurs en ont déjà parlé. Mais alors, que peut la sensibilité en la matière? Qu'en est-il de la sensibilité comme puissance d'intensification et de transformation de notre relation au monde? Cette question me semble importante, car si nous avons désormais conscience de la crise écologique que nous traversons, nous commençons juste à la ressentir et à en faire l'expérience dans notre chair. La transformation de notre sensibilité me paraît fondamentale pour prêter attention à ce qui importe vraiment et ouvrir de nouvelles habitudes en matière d'habiter. L'hypothèse de la sensibilité atmosphérique s'inscrit dans cette recherche d'un rapport au monde soucieux du devenir de la Terre. Elle se déploie sur fond d'un double questionnement. La première question a trait aux formes même de la sensibilité. À quel type de mutation assistons-nous actuellement? Je vais essayer de montrer que l'atmosphère est précisément un des enjeux centraux de la sensibilité contemporaine. On pourrait d'ailleurs s'appuyer sur des pensées aussi différentes que celles de Peter Sloterdijk, de Gernot Böhm ou de Yves Michaud pour étayer cet argument de base. En insistant sur ce tournant atmosphérique de la sensibilité, il s'agit aussi de montrer comment le monde contemporain opère un nouveau partage du sensible et occasionne de nouveaux modes de sentir. La deuxième question a trait aux puissances de l'ambiance. Qu'en est-il des ambiances comme vecteurs de la sensibilité ? De nombreux auteurs contemporains insistent à juste titre sur la nécessité d'inventer de nouveaux récits pour changer les perceptions communes et cultiver de nouveaux modes d'attention. Il me semble qu'on pourrait reprendre cet argument et l'appliquer également aux ambiances. Non seulement inventer de nouveaux récits, mais s'attacher aussi à installer de nouvelles ambiances et de nouvelles attentions aux milieux ambiants. Une complémentarité joue ici entre le monde des récits et celui des ambiances. Cela demande de changer en quelque sorte de focale. L'ambiance n'emprunte pas seulement le chemin des récits et des histoires, elle engage aussi des affects, des tonalités et des sensations, selon des intensités que l'on pourrait qualifier d'infrasémiotiques. Elle donne à sentir des atmosphères en acte et en situation et permet d'inscrire la sensibilité au sein même de la vie quotidienne. Je propose donc de faire de l'ambiance l'opérateur par excellence de la sensibilité atmosphérique, le dépositaire des mutations de la sensibilité ordinaire. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par sensibilité atmosphérique ? Pour commencer, la sensibilité atmosphérique relève d'une manière d'être sensible aux milieux ambiants dans lesquels nous baignons tous les jours et qui passent habituellement inaperçus. Quand je dis milieux ambiants, je pense aussi bien à l'air que nous respirons, aux sons qui nous enveloppent, à la lumière dans laquelle nous baignons, aux odeurs qui se répandent, etc., etc. Je pense à l'ensemble des médiums qui sensibilisent le monde et qui conditionnent la perception elle-même. Ainsi, par exemple, des exemples extrêmement triviaux, pas de vision possible sans lumière, je ne vois pas de la même manière dans un brouillard épais ou en plein soleil, je ne respire pas de la même manière dans l'air pollué d'un site industriel, dans l'air raréfié d'une balade en montagne ou dans l'air conditionné d'un centre commercial. Mon état de corps n'est pas le même dans ces situations, pas non plus la tonalité affective dans laquelle je me trouve. Pour le dire autrement, un milieu procède à la fois d'un milieu perceptif et d'un milieu affectif. La sensibilité atmosphérique concerne moins le fait de percevoir un monde d'objets clairement identifiables et localisables que de sentir les éléments qui enveloppent, traversent et imprègnent les corps aussi bien que les milieux. Autrement dit, nous ne sommes pas seulement entourés d'objets, nous sommes également enveloppés dans des milieux. La sensibilité atmosphérique se rapporte à ce qu'Emmanuel Lévinas appelle l'élémental, c'est-à-dire un milieu impersonnel, sans forme, sans face et sans limite, dans lequel nous sommes plongés. Mais attention, cela ne signifie pas que ce milieu n'est pas doté de qualité. Bien au contraire, c'est même toute la question. Pour Lévinas, je cite, la sensibilité met en rapport avec une pure qualité sans support, avec l'élément. Donc vous voyez le lien direct opéré par Lévinas entre la sensibilité et l'élément, les éléments. Il ajoute aussi un autre point fondamental, que la sensibilité relève de la jouissance et de la vie, et non de la représentation. C'est un point extrêmement important. On pourrait se risquer à dire que la sensibilité atmosphérique procède d'une topique de l'exposition et de l'inspiration plutôt que de la narration et de la représentation. On est ici du côté d'un sentir diffus, d'une perception périphérique et défocalisée, d'une attention flottante, ouverte à la qualité des éléments qui infusent en nous. On est aussi du côté des sensations à l'affût, d'une disponibilité non orientée, dirait Günther Anders. Il parle de disponibilité non orientée. Pas seulement des situations sensibles actuelles, ici et maintenant, mais aussi potentielles, en devenir, telles qu'elles pourraient advenir. Par exemple, un printemps silencieux dans lequel nous n'entendrions plus d'oiseaux, un rafraîchissement de l'air qui rendrait supportable un été étouffant, ou encore un monde sans Covid, dans lequel on pourrait respirer. Autrement dit, la sensibilité atmosphérique relève d'une sensibilité diffuse, attentive aux variations modulation et altération des milieux ambiants qui insufflent la vie. On vient de voir que les milieux ambiants sont dotés de qualités, que les éléments ont une épaisseur et une densité. S'il s'agit bien désormais de prêter attention à la texture sensible des milieux de vie, encore faut-il s'intéresser aux conditions concrètes de cette expérience. Les milieux et les éléments dont je viens de parler ne sont jamais purs et transparents. Ils sont sans cesse travaillés par la fabrique des activités humaines et l'aménagement des espaces habités, par les pratiques les plus ordinaires de la vie sociale et le fonctionnement inaperçu des dispositifs techniques. Nous apprenons ainsi avec Peter Sloterdijk que l'homme est un designer d'atmosphère. Il me semble que l'ambiance permet justement d'insister sur le caractère situé et circonstancié de la sensibilité et sur la transformation incessante des milieux sensibles. Une ambiance est toujours enchâssée dans une situation concrète. On définit d'ailleurs parfois l'ambiance, et il y a 10 000 façons évidemment de définir l'ambiance, mais on la définit parfois comme la qualité diffuse ou la tonalité affective d'une situation. Il faudrait rester au plus près des situations pour montrer comment une ambiance contribue à phénoménaliser le monde et à lui conférer sa teneur véritablement sensible. Sans doute, d'ailleurs, dans le colloque, aurons-nous de beaux exemples de ce processus-là. Gardons à l'esprit, pour le moment, que les ambiances ne rendent pas le monde perceptible de manière générique et indifférenciée. Elles spécifient à chaque fois des espaces sensibles et des contextes de perception. Si une ambiance se colore aussi bien des dimensions matérielles, sociales, pratiques, climatiques et techniques d'une situation, elle invite aussi à considérer ce qui se passe entre les choses, à s'intéresser aux espacements, aux enveloppes, aux membranes et aux interstices, plutôt qu'aux objets eux-mêmes. De l'ordre du flux, l'ambiance relève d'un mouvement en devenir plutôt que d'un monde substantiel. Anne Coquelin exprime admirablement en quelques mots cette composition d'éléments hétérogènes d'une situation. Je la cite en court extrait d'un de ses ouvrages. Nous fréquentons les incorporels et la plupart du temps, nous ne le savons pas. Si j'essaie de me souvenir d'un moment d'existence, d'un fragment de temps vécu, se mêle dans cette réminiscence lieu, personne, tant qu'il fait et tant qu'il est, paroles échangées. Un tissu fragile qui tend à se défaire si on l'ausculte de trop près et dont la consistance tient précisément à la fluidité. Ce qui se dégage de cette exploration, c'est une atmosphère, un air, une enveloppe d'odeurs, de saveurs et, ci et là, quelques éléments distincts ayant une forme plus nette. Je clôt la citation. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Dans la vie de tous les jours, nous n'arrêtons pas de passer d'une ambiance à une autre. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit ce qui se passe ou ce qu'on est en train de faire, nous sommes continuellement plongés dans une ambiance, en même temps que nous y prenons part d'une manière ou d'une autre. En quelque sorte, l'ambiance permet de faire atterrir la sensibilité, de l'exercer en contexte, de la mettre à l'épreuve des situations les plus ordinaires. Elle constitue l'unité de base selon laquelle nous éprouvons et installons un monde sensible. Elle se présente comme un vecteur particulièrement puissant à partir duquel le monde se rend sensible. Ce mouvement de phénoménalisation dont je parlais tout à l'heure. Pour prendre une métaphore jardinière, on pourrait dire que l'ambiance est le domaine dans lequel se cultive et s'entretient la sensibilité commune. Je vais juste évoquer deux points qui me paraissent importants à cet égard. Première proposition, L'ambiance encadre les formes normales de la perception. À ce titre, elle n'est pas un simple réceptacle du monde sensible, mais plutôt un opérateur de transformation. Elle distribue ce qui est perceptible et ce qui est imperceptible. Elle différencie l'ordinaire du remarquable. Elle trace les angles morts de la perception. Elle participe d'une écologie de l'attention. On pourrait dire qu'elle filtre et encadre les milieux sensibles en les dotant de prises et d'invites, de qualités et de valeurs particulières. Bref, l'ambiance est le lieu par excellence de la formation de nos habitudes perceptives, de l'activation des schèmes sensorimoteurs, de l'engagement de notre relation socio-esthétique au monde. On va voir d'ailleurs qu'elle peut aussi bien se déployer du côté de la normalisation et de la standardisation que du côté de l'expérimentation et de la création. Je vous propose juste de retenir ici que l'ambiance est dotée d'une agentivité propre qui a trait précisément à la sensibilité située. Mais alors, on pourrait se demander comment tout cela est possible. Comme vous le voyez, je prête à l'ambiance beaucoup de puissance, d'où mon deuxième point qui apporte quelques précisions. Deuxième proposition, l'ambiance opère par imprégnation. Elle exerce une influence discrète et diffuse, mais non moins efficiente et durable. Elle ne procède pas de manière frontale et ostensible, mais plutôt de manière continue, indirecte et disséminée, en mettant le monde sensible en condition. Bien sûr, une ambiance peut être spectaculaire et remarquable, et relever d'événements extraordinaires. Stéphanie en a parlé à l'instant. La crainte d'une catastrophe naturelle hors du commun, la panique d'une pandémie mondiale. C'est d'ailleurs ce type de phénomène qui est rendu public dans les médias. Il arrive que l'extraordinaire se banalise, comme par exemple dans le cas du Covid-19. Les habitudes les plus élémentaires sont alors mises en défaut, reconfigurées, obligeant à inventer de nouvelles manières d'être et de vivre ensemble. Peut-être, hypothèse, qu'une des manifestations de la crise écologique est justement de transformer l'extraordinaire en expérience de plus en plus ordinaire. Mais l'ambiance opère aussi à un niveau beaucoup plus discret et infinitésimal. Elle procède d'une logique des transformations silencieuses, dont parle François Julien, par exemple. À ce titre, elle relève fondamentalement d'un travail imperceptible des coulisses et des arrière-plans de la vie en commun. Elle imprègne la vie de tous les jours en donnant le ton aux situations et en les chargeant d'affects divers et variés. Elle met les corps dans un certain état de tension et les travaille à même leur tonicité et leur capacité d'agir. L'ambiance opère ainsi à un niveau infrasensible, par infiltration lente et par voie d'accoutumance, par induction, infusion et contagion à partir de dynamiques de basse intensité. L'idée à retenir ici est que l'ambiance est un vecteur de changement des sensibilités. Elle est ce par quoi le monde nous habite, en travaillant au corps, nos manières de sentir, et en les mettant en partage. Justement, les mettre en partage. J'en viens justement à cette question tout à fait cruciale, celle du partage du sensible. Évidemment, on aura reconnu la référence à Jacques Rancière. Si la sensibilité atmosphérique s'adosse sur une écologie sensible aux éléments, j'en ai parlé en introduction, et sur une attention renouvelée au milieu de vie, il est d'autres formes de sensibilité contemporaine qui s'inscrivent dans de toute autre logique. On pourrait me rétorquer assez facilement, et souvent on l'a fait, que les ambiances sont souvent éloignées d'une sensibilité écologique, qu'elles participent au contraire d'une logique marchande, aussi bien que d'une emprise technologique. Cet argument est loin d'être erroné. Je pense par exemple à l'hyperesthétisation marchande qui transforme les atmosphères en des biens monnayables. Yves Michaud, dans son dernier ouvrage, analyse en détail cette tendance actuelle. On en trouve d'ailleurs des germes dans des pensées aussi différentes que celles de Walter Benjamin ou même de Jean Baudrillard. Les ambiances seraient ainsi au service d'une économie de l'expérience et contribuerait à un appauvrissement de la sensibilité. Le marketing sensoriel se traduirait dans des ambiances stratégiques, donnant à sentir des atmosphères de vente et reposant sur une logique de la séduction. On a affaire ici à une sensibilité davantage orientée vers un intérêt d'ordre économique que par un souci d'ordre écologique. De nombreuses critiques ont été développées à l'égard de ce capitalisme esthétique, mettant l'accent sur l'aseptisation des espaces habités, n'est-ce pas Rachel ? Ou sur l'émergence d'une ville garantie qui neutralise l'improvisation habitante. Ou alors encore sur une tendance à un urbanisme clean, le terme a été donné. Ou encore sur une spectacularisation de l'urbain. J'en viens à une autre tendance de fond qui concerne la transition numérique. Ce mouvement de digitalisation du monde passe par une emprise grandissante des technologies embarquées et des perceptions augmentées. On parle à cet égard d'intelligence ambiante pour désigner les flux informationnels diffus et omniprésents qui traversent l'expérience quotidienne des citadins. Pour relever aussi le caractère ubiquitaire et intégré de ce type d'environnement artificiel. Pour Bernard Stiegler, on assiste à une transformation de l'expérience esthétique en un conditionnement esthétique. On assiste à une externalisation des facultés humaines qui conduit à un déficit de sensibilité. Ce tournant machinique de la sensibilité, expression que j'emprunte à Bernard Stiegler, ce tournant machinique de la sensibilité s'adosserait sur une économie de l'attention et se traduirait par une incapacité grandissante à ressentir. Je n'ai pas développé plus avant ces deux tendances relatives à la monétisation d'une part et à la digitalisation du monde d'autre part. Il faudrait bien sûr être beaucoup plus précis et nuancé, montrer par exemple comment la sensibilité atmosphérique se nourrit aussi de dispositifs techniques, de capteurs environnementaux, qui rendent manifestes des phénomènes écologiques qui échappent à la sensibilité humaine. Plus fondamentalement encore, il faudrait prolonger peut-être la philosophie de Gilbert Simondon sur ce qu'il appelait à la fin de sa vie la techno-esthétique, pour penser la complexité des artefacts et des milieux associés, et pour Simondon, pour revisiter la technique à l'aune de sa capacité à faire sentir l'expansion de la vie. Donc la critique de la technique que j'ai adressée à l'instant est bien sûr à nuancer énormément, en particulier à partir de la philosophie de Gilbert Simondon. Je voulais juste insister et indiquer qu'on assiste peut-être à un nouveau partage du sensible qui met en présence des formes de sensibilité discordantes et qui reposent sans doute aussi sur ce qu'on pourrait appeler des conflits d'ambiance. À cet égard, une ambiance n'engage pas seulement une expérience subjective, elle instaure des cadres collectifs de perception. Elle participe de la transformation des perceptions individuelles en percepts anonymes, des affections privées en affects impersonnels. Donc vous voyez ce mouvement-là d'anonymat et d'impersonnalité opéré par l'ambiance. Pour le dire autrement, l'ambiance contribue au processus de subjectivation qui institue le sujet comme sujet percevant. Il me semble que les tendances dissonantes de l'évolution du monde sensible, celles que je viens juste d'évoquer, impliquent le caractère politique de la sensibilité et pose à nouveau frais la question du commun. Loin d'être le domaine d'un assentiment général et unanime, le sensible se présente plutôt comme un lieu de dissensus ayant trait à l'exercice des sens. Prêter attention et reconnaître l'existence de la sensibilité atmosphérique est une manière de faire importer ce versant écologique de la sensibilité. Donc c'est une prise de position. Parmi les diverses formes de sensibilité, qu'elles soient marchandes, appareillées, atmosphériques, toutes n'ont pas la même valeur. Toutes ne produisent pas les mêmes conséquences et n'engagent pas le même devenir du monde. Bref, en matière de sensibilité aussi, il importe de faire valoir ce à quoi on tient. On pourrait d'ailleurs se demander si, conjointement aux disputes relatives à l'hégémonie culturelle, terme souvent et de plus en plus utilisé, emprunté à Gramsci, conjointement aux disputes relatives à l'hégémonie culturelle, il n'y aurait pas également à penser le monde à venir à l'aune de ce qu'on pourrait appeler une bataille de basse intensité pour l'hégémonie sensitive. On a beaucoup pensé l'hégémonie culturelle, on pourrait se demander s'il n'y a pas aussi une question relative à l'hégémonie sensitive. Cette mésentente porterait en particulier sur la neutralisation ou l'intensification de notre capacité à sentir. Je voudrais juste terminer mon intervention en évoquant trois épreuves en matière de sensibilité atmosphérique. La première épreuve a trait à la consistance des milieux ambiants. Le terme consistance est très important. Elle renvoie à l'idée de composer des milieux. J'ai dit tout à l'heure qu'une ambiance fait tenir ensemble les composantes hétérogènes d'une situation en la dotant d'une tonalité propre. C'est ce qu'on appelle parfois d'ailleurs le pouvoir méréologique de l'ambiance, sa capacité à homogénéiser une situation en la dotant d'une tonalité. Rappelez-vous la citation d'Anne Coquelin, « Un tissu fragile dont la consistance tient précisément à la fluidité ». Rien de fixe, d'unique et de définitif ici, mais bien plutôt des mondes sensibles en continuelle transformation et recomposition. On rencontre ici un thème fondamental de la pensée écologique actuelle, ce thème du maillage, du tissage, de l'interconnexion, celui du meshwork, dirait Tim Ingold. Avec l'ambiance, on a affaire à une écologie des flux qui affecte aussi bien les corps et les milieux. Ces flux d'air, de son, de lumière, d'odeur, infusent par petites touches et se diffusent de proche en proche. Une situation se dote d'autant plus de consistance interne qu'elle favorise la circulation des flux et encourage le mélange des éléments. Cela suppose d'étendre la notion classique de situation, quand je dis notion classique de situation telle qu'elle a été par exemple définie dans la microsociologie, cela suppose d'étendre la notion classique de situation en intégrant aussi bien ses composantes climatiques, aériennes, saisonnières. Avec la sensibilité atmosphérique, une pure logique des échelles spatiales ne tient plus. Pensez par exemple comment une tempête de sable au Sahara peut se propager jusqu'en Europe, colorer le monde différemment et requalifier une situation ambiante locale. On a eu aussi ce cas très évident avec le nuage de Tchernobyl. C'est ainsi que le micrologique rencontre l'atmosphérique, le corporel entre en relation avec le cosmique. Certains penseurs critiques de l'urbain ont insisté sur une tendance contemporaine à produire des environnements artificiels particulièrement étanches et hermétiques. Le philosophe belge Lieven de Cotter a parlé à cet égard de la capsularisation des espaces urbains. La sensibilité atmosphérique conduit à expérimenter des ambiances inédites, davantage sensibles aux forces du cosmos et aux respirations de la Terre. Elle procède d'une attention portée à la fragilité et à la précarité des enveloppes qui nous habitent. Vous voyez que j'utilise souvent ce terme-là, des ambiances qui nous habitent. Donc, on a eu bien sûr beaucoup, beaucoup tendance à penser nos manières d'habiter le monde, nos modes d'habiter. C'est absolument fondamental. Mais peut-être que par l'ambiance, on a la possibilité d'analyser aussi la manière dont le monde nous habite, la manière dont les espaces, les environnements, les milieux nous habitent. Il en va ici des degrés de porosité et de perméabilité des milieux de vie. La deuxième épreuve a trait à la résonance des milieux ambiants. Vous reconnaissez le terme résonance. Elle renvoie à l'idée d'insuffler la vie. Cette thématique de la résonance est désormais bien connue, en particulier avec les travaux d'Hartmut Rosa. Je ne vais donc pas la développer outre mesure. En tout cas, il est de plus en plus évident qu'une approche strictement environnementaliste et instrumentale des milieux habités est insuffisante en matière d'action écologique. L'enjeu est plutôt ici de nouer une relation vitale à la Terre et de cultiver des capacités de résonance avec elle. À cet égard, les ambiances participent de l'animation du monde et constituent un domaine particulièrement propice à partir duquel peuvent se développer des aptitudes à sentir et à entrer en résonance. Comme je l'ai dit, une ambiance intone les corps et les milieux. Elle dispose d'une puissance de tonalisation, si vous voulez reprendre le terme bachelardien, d'une puissance de tonalisation qui peut ouvrir de nouveaux affects. En donnant le ton aux situations de tous les jours, les ambiances diffusent des blocs d'énergie et transmettent des affects de vitalité. Bien sûr, je vous recommande la lecture de Daniel Stern sur les affects de vitalité. La recherche pourrait alors s'orienter vers l'installation d'ambiances aux affects positifs qui fonctionneraient comme autant d'appâts pour des sentirs. La crise de la résonance que décrit Rosa met la question du sentir au centre du questionnement. Et on a vu d'ailleurs, depuis j'ai commencé à parler, comment est-ce que la critique de l'urbain, certaines critiques de l'urbain insistent sur cette question du sentir ou cette incapacité à sentir ou à ressentir. Mais précisons que la capacité à être affectée n'est pas le propre de l'humain. Elle relève bien plutôt d'une faculté commune aux êtres vivants. Une fleur se tourne vers la lumière, un chien tend l'oreille et se met aux aguets. Dans ces situations aussi, une variation du milieu s'opère, aussi infime soit-elle, un acte de sentir a lieu. Le sentir se définit en effet comme la capacité à être affecté par la variation d'un milieu. Il en va ici d'un sentir généralisé, qui permet de dépasser une perspective strictement anthropocentrée. Si sensibilité atmosphérique il y a, elle se situe au niveau du vivant et pas uniquement de l'humain. Cette piste de réflexion est lourde de conséquences. Elle suppose en particulier de prendre acte du décentrement du sujet dans les théories de l'ambiance. D'une certaine manière, il s'agit de passer d'une perspective égocentrée à une perspective éco-centrée. La troisième question, la dernière question, a trait à la persistance des milieux ambiants. Elle renvoie à l'idée d'entretenir l'ordinaire. Une des questions ici est de se rendre sensible à ce qui a été et à ce qui perdure dans le temps. La sensibilité atmosphérique consiste à prendre soin des permanences de milieux, à prolonger et nourrir ce qui subsiste. Si on pose cette question au niveau des territoires, il s'agit moins de prendre soin de la scène, des composantes les plus manifestes et spectaculaires d'un territoire, que de prendre soin des coulisses et des arrière-plans, comme je le disais tout à l'heure, d'alimenter des potentialités durables et cultiver des ressources existantes. J'ai l'habitude de parler de gestes ambiants à ce propos, pour désigner ces mille et un gestes qui participent de l'entretien des milieux de vie. Ces gestes peuvent être de grande ampleur, comme quand on décide de désartificialiser des sols, développer une politique de mobilité douce, ou encore manifester contre des méga-bassines. Mais ils peuvent être aussi très ordinaires et quotidiens, comme par exemple quand nous prenons soin d'une plante ou que nous balayons devant notre porte. À cet égard, la respiration constitue sans doute le paradigme par excellence du geste ambiant, puisque la respiration joue d'une rythmique entre l'inspire et l'expire. Elle entretient tout aussi bien le corps que le monde. L'ambiance assure la continuité de l'expérience ordinaire et contribue à la confiance de base que nous avons dans le monde tel qu'il est, tel qu'il apparaît et tel qu'il se maintient. Il en va ici de la sécurité ontologique de tout un chacun. En installant dans le temps un milieu de vie habituel et familier, l'ambiance relève du socle existentiel qui conforte ce qu'on tient pour acquis et pour allant de soi. C'est ainsi que le monde se rend véritablement habitable. On a pu d'ailleurs parler, certains philosophes américains ont parlé de confiance existentielle à propos de cette forme atmosphérique de la confiance qui prend les traits d'une confiance généralisée, ambiante et diffuse. Mais il arrive que ce sentiment de fiabilité soit mis en défaut. La pandémie du Covid-19 en est le parfait exemple. Cette perte de l'évidence naturelle peut d'ailleurs aller de pair avec l'ébranlement de la foi perceptive, si on voulait reprendre une expression de Merleau-Ponty. Comme par exemple, quand on se met à douter de ce qu'on perçoit, et le son, le monde sonore, on est un médium particulièrement opérant à cet égard, ou alors qu'on développe une tendance à l'hypervigilance, comme dans le cas de traumatisme, par exemple. Pour le dire en un mot, la sensibilité atmosphérique met à l'épreuve notre sécurité ontologique. Voilà, je résume simplement mes trois points, mes trois épreuves. La consistance met à l'épreuve la porosité des enveloppes. Elle permet de poser la sensibilité comme une capacité à composer des milieux et à s'ouvrir aux prégnances du cosmos. La résonance met à l'épreuve un sentir généralisé. Elle pose la sensibilité en tant que consistante à insuffler la vie et à intensifier une capacité à sentir. La persistance met à l'épreuve la sécurité ontologique. La sensibilité consiste ici à entretenir l'ordinaire et à cultiver des gestes ambiants. Voilà, je termine ici ma présentation. Je voulais juste dire combien il est nécessaire de tenter d'explorer de nouvelles pistes de recherche, d'expérimenter de nouvelles manières de sentir et inventer de nouvelles façons d'habiter la Terre à la hauteur des enjeux écologiques auxquels nous sommes confrontés. Cela suppose bien sûr d'accepter de prendre des risques et se dire peut-être qu'on ne peut plus faire de la recherche exactement comme avant. J'ai essayé d'ouvrir la question de la sensibilité en interrogeant le devenir atmosphérique de nos manières d'être sensibles et en raffinant, je prends une expression tirée de Jean-François Lyotard, en raffinant notre sensibilité aux différences. Peut-être qu'il s'agissait aussi de donner un peu d'espoir. Les lucioles de Pier Paolo Pasolini n'ont pas complètement disparu. La sensibilité atmosphérique œuvre à éclairer encore le monde. Elle tente à accroître le sentiment d'être en vie. Nul doute que le colloque qui nous attend va être captivant et riche de discussions passionnantes à cet égard. Pour terminer, je voudrais juste vous passer une courte, très très courte vidéo de 30 secondes. Je ne sais pas si la régie m'entend. Je vous remercie pour votre attention.
Qu'il s'agisse de changements majeurs ou de changements qui, effectivement, tu le dis, hein, infusent nos quotidiens et nos sensibilités. Merci pour ça. Et puis, ce qu'on se disait dans le creux de l'oreille avec Nicolas, c'est merci parce que tu nous donnes 10 ans de travaux là, sur les ambiances. Donc, on a encore du pain sur la planche et je regarde en particulier nos jeunes doctorants et doctorantes et nos jeunes chercheurs. Voilà, je cède la parole à la salle pour quelques échanges avec Jean-Paul.
Merci. Bonsoir, je suis doctorant, je suis paysagiste. Et avant, j'ai deux questions. Je voulais dire qu'en termes d'ambiance, bah, c'est très calme. C'était une succession de petites touches de miel, tout ce que vous nous avez emporté. C'était une belle synthèse et merci. Vous l'avez dit, il y a une mise en marché du sensible, notamment avec la question du marketing territorial, où le paysage va être mobilisé notamment comme élément de promesse, d'ambiance, qui vont nous permettre de peut-être s'émerveiller. Et du coup, on a beaucoup de littérature par rapport à ça, mais finalement, pourquoi ces promesses-là fonctionnent ? C'est bien parce qu'on a peut-être oublié le sensible dans nos quotidiens et que l'exceptionnel a peut-être disparu. Donc ma première question, c'est pourquoi ? Pourquoi il a disparu ? Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a éclipsé ? C'est quoi les racines ? Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il est si difficile de parler de sensibilité. Pourquoi est-ce qu'il est si compliqué d'aborder ce mot pourtant si simple qui peut peut-être heurter l'enfant en nous ? Mais moi, en tant que paysagiste, je travaille beaucoup avec les agriculteurs sur mon territoire et l'approche sensible n'est pas le bon moyen de leur faire parler de leur motivation et de leur affect. Et donc, voilà, deux questions toutes simples, pourquoi et pourquoi ? Et merci.
Merci beaucoup pour les questions. Je ne sais pas si elles sont toutes simples, par contre, parce qu'elles sont très, très lourdes. La première, pourquoi est-ce que le sensible... C'est peut-être la deuxième. Pourquoi est-ce que le sensible disparaît, en fait, ou de notre champ de conscience ? Je pense, d'une part, que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il existe quand même un domaine qui est consacré très, très largement à cette question-là, qui est le domaine de l'art. Qui a un rôle fondamental dans la façon dont notre sensibilité joue, se transforme, etc. Par contre, je crois que cette disparition, en tout cas cette occultation de du sensible, vient tout simplement aussi du fait que y a un travail d'habituation en fait, dans la vie quotidienne. Le fait qu'on n'est pas constamment en train d'avoir une position réflexive sur ce qu'on perçoit pour pouvoir mener nos affaires courantes. Donc cette habituation-là, elle joue aussi de l'immersion dans lequel on se trouve dans un milieu. Et que voilà, le processus d'habituation tend aussi à atténuer notre acuité, à thématiser le sensible. J'aurais tendance à dire... à dire ça. Je me souviens plus de l'autre question. Pourquoi c'est si compliqué ? Ben, je pense que c'est un peu ça. Enfin, alors, évidemment, on a toute une... C'est pas moi qui vais développer cette pensée-là, mais on a une histoire, en fait, des sensibilités, une philosophie plurielle de ce qu'on peut entendre par sensibilité. Je pense qu'une des questions qui peut se poser, c'est ce que je disais en introduction dès le début, qu'on a affaire à des phénomènes qui sont d'ordre aussi infrasémiotique. C'est-à-dire qu'on a bien sûr une capacité à parler, à thématiser, à conceptualiser tout un ensemble de phénomènes de la vie courante, quotidienne, etc. Parce qu'on a une perception d'objet. Il me semble qu'avec la sensibilité, comme avec l'ambiance, de la même manière, comme avec ce que je disais de la sensibilité atmosphérique, on est dans un continuum qui est infrasémiotique, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans du flux, dans de l'énergie, et qu'on n'a pas de prise objectale sur telle ou telle chose. On est plutôt dans du flux continu. Il me semble que la sensibilité renvoie aussi à cette idée-là, que derrière sensibilité, ce n'est pas seulement une perception d'objet qu'on peut saisir, qu'on peut thématiser d'une manière ou d'une autre, mais on est plutôt dans une expérience d'immersion qui fait que ces flux-là ne se coupent pas en morceaux, ne se sémiotisent pas nécessairement. Donc, très souvent, dans la phénoménologie, on parle de cette dimension pré-réflexive ou anté-prédicative de l'expérience, ce qui échappe peut-être à la mise en mots, ce que je disais un peu aussi en introduction sur ce rapport entre une volonté d'explorer de nouveaux récits, de nouvelles formes de narration, et puis aussi cette capacité à installer de nouvelles ambiances. Installer de nouvelles ambiances, pour le coup, c'est aussi essayer de travailler au cœur même la sensibilité sans forcément avoir à la mettre en mots ou à la rapporter à un discours conscientisé ou très articulé. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la sensibilité, qui est de l'ordre d'une expérience corporelle, immédiate, qui est avant tout de l'ordre des schèmes sensorimoteurs, moteurs, sensorimoteurs, on pourrait dire de l'ordre d'une dimension pathique de l'expérience, et qui ne passe pas nécessairement par le langage, en tout cas qui pousse le langage à ses limites. Et peut-être que la poésie peut le faire le mieux, si on voulait parler de langage, ou que des arts, le cinéma par exemple, est une manière aussi de travailler la sensibilité, mais sans forcément en faire une théorie ou en élaborant, disons, un langage, un discours dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais il me semble qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une expérience corporelle, schématique, motrice, qui est irréductible à cette dimension langagière.
Merci beaucoup pour ton intervention. J'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que tu peux lever l'énigme savoir qui est l'auteur de la vidéo ? Et la deuxième, c'est est-ce que tu peux, à un moment donné, tu as fait un petit point et puis tu as dit, je reprends grosso modo, c'est une prise de position. Et j'aimerais bien que tu la reprennes parce qu'elle a été un peu, tu l'as avancée, puis après tu es partie sur autre chose. Donc ça me semble assez important que tu aies eu l'envie de souligner c'est une prise de position. Et quelle est-elle ? Et pourquoi tu nous la donnes de cette manière-là aujourd'hui ?
L'auteur de la vidéo, ben c'est moi. En fait, elle vient d'un voyage d'études qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec un certain nombre de collègues du Cresson et de l'UGA en Nouvelle-Orléans. Et là, on est sur les rives du Mississippi lors d'une matinée très pleine de brouillard, en fait. Et c'est simplement une façon de montrer comment cette question de la sensibilité atmosphérique est une tentative de se dire que, c'est peut-être aussi une réponse à la question précédente, n'est pas seulement relative à une perception d'objet, mais à aussi une sensibilité à l'enveloppement d'un médium, comme l'air et comme le brouillard. Voilà, donc ce passage entre des objets clairement identifiables, l'herbe, etc., les vaguelettes d'eau, pour cette montée dans le ciel qui nous amène dans une autre dimension de l'expérience sensible, avec le son qui est présent comme base aussi. Sur cette prise de position, oui, bien sûr, oui. C'est un peu ce que j'essayais de dire à la fin. Je me dis personnellement, hein, mais je pense que je ne suis pas seul à me le dire, que faire de la recherche, peut-être avant, on ne se posait pas tellement, moins que maintenant, En tout cas, dans le travail de recherche qu'on mène au sein de AU, on se posait pas vraiment la question de l'engagement du chercheur, de l'implication du chercheur, et qu'il me semble que dans un contexte actuel, alors là j'ai parlé du contexte de la crise écologique, cette supposée neutralité axiologique ou cette supposée indifférence ou mise à distance, je suis plus sûr maintenant qu'elle soit tenable, et d'ailleurs de plus en plus on voit des chercheurs qui le posent, le revendiquent, le théorisent, etc. Et que parler de sensibilité atmosphérique, c'est une façon d'affirmer son importance, d'affirmer déjà son existence, d'instaurer son existence contre d'autres tendances liées au capitalisme esthétique ou liées à la prégnance technologique, qui sont des tendances très très lourdes de la société, mais qui peuvent, comme j'ai essayé de le dire, être en conflit avec une sensibilité très minoritaire jusqu'à présent, sensibilité minoritaire jusqu'à présent, qui monte petit à petit. Je pense que de moins en moins, on va trouver des personnes ou des gens qui remettent en cause l'existence du changement climatique et de la question de l'anthropocène, même s'ils existent encore. Et donc, qu'il faut bien trouver des moyens de recherche, des moyens théoriques, pratiques, empiriques, méthodologiques, pour comprendre ça et pour inventer de nouvelles manières d'habiter. Pour moi, ce que j'ai essayé de dire là, ce soir, c'était de dire ben, une des façons, une des pistes, une des ouvertures, une des explorations, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, c'est de partir sur cette idée de sensibilité atmosphérique, mais qui est loin, bien, bien loin, de faire l'unanimité des personnes qui ou des institutions ou des organismes qui produisent les espaces, les espaces commerciaux en particulier, les technologies, les grandes entreprises, etc. Et donc, voilà, c'est une façon d'instaurer l'existence, en fait, de cette dimension possible de la sensibilité. Et de se dire, bon, il n'y a pas que le monde technologique, il n'y a pas que la digitalisation du numérique, il n'y a pas que le capitalisme esthétique, avec toutes ses conséquences. Il y a aussi tout un ensemble de gestes ambiants, micro, macro, diversifiés, pluriels, qui, je crois, essayent de se développer, de proliférer, et qui, voilà, essayent de trouver des moyens de lutter contre cette crise climatique ou cette crise de l'anthropocène. Et voilà, donc, ma réponse était de se dire, affirmons, donnons de l'importance à ce type de sensibilité-là, affirmons qu'elle existe et qu'il s'agit précisément de l'intensifier, de la démultiplier pour peut-être lutter contre d'autres tendances. D'où cette idée d'hégémonie sensitive, je crois. Bon, c'est une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais de se dire, derrière, en fait, les différentes tendances, influences actuelles du monde contemporain, eh bien, il y a aussi un enjeu qui a trait à la sensibilité, qui n'est pas du tout indifférente à la manière dont on a envie de voir le monde advenir, que ces différentes manières sont parfois conflictuelles, dissonantes, et que tout ne se vaut pas, c'est ce que j'essaie de dire. Et donc, parler de sensibilité atmosphérique, c'était une façon de dire, là, on a peut-être quelque chose qui importe, pour lequel ça vaut le coup de tenir, se battre et de développer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais...
Merci. Oui, je voudrais revenir sur le partage, ce que vous appelez le partage en commun de la sensibilité. Je suis socio-anthropologue. Pour dire les choses d'une manière un petit peu abrupte, mon expérience sensible et mes réactions par rapport aux ambiances ne sont pas la même exactement si je suis un habitant des cités et que si je suis un habitant des septièmes. Et plus largement, si je suis un Indien dans la forêt amazonienne, et si je suis un habitant des villes, etc., on pourrait multiplier bon, ce que vous appelez peut-être les dissonances. Donc je me pose la question, c'est très bien de réfléchir sur le sensible, mais comment, d'une manière, je dirais, pragmatique, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas une hégémonie, j'allais dire occidentale, peut-être écologique, de l'appréhension du sensible par rapport à d'autres civilisations, par rapport à d'autres sociétés et par rapport à d'autres modes d'habiter. Donc c'est une question, évidemment, sur le commun et le partage. Et je pense que dans une situation de même ambiance, personne ne réagit de la même manière.
Bien, merci pour la question. Ça me donne l'occasion peut-être de dire quelque chose que j'avais prévu de dire puis que j'ai mis de côté parce que bon, je ne pouvais pas tout dire. Mais je me suis posé effectivement la question, est-ce qu'il y aurait des porteurs privilégiés ou particuliers de cette sensibilité atmosphérique ? Est-ce qu'il y aurait des... est-ce qu'on pourrait parler de sensibilité minoritaire à propos de sensibilité atmosphérique ? Et je vais commencer à travailler sur cette question-là. Il me semble qu'on a, quand on regarde, on lit la littérature ou des travaux, un certain nombre de catégories, de personnes, de populations qui ont une compétence à capter de façon plus forte et plus intense la sensibilité atmosphérique. Ça suppose en fait un travail de déshabituation, dépaysement. Je pense par exemple aux enfants, je pense par exemple aux personnes malades, je pense par exemple aux anthropologues, évidemment. Je pense par exemple à certaines pratiques, le Wu Wei, par exemple, qui consiste à se décentrer et à rentrer dans un état qui neutralise l'action, l'activité. Je pense évidemment aux artistes, avec le travail qu'ils font de défamiliarisation sensible. Donc on pense aux enfants, aux personnes malades, aux anthropologues, aux artistes, à certaines pratiques asiatiques. Là, peut-être qu'on a affaire à des catégories de pratiques ou de personnes qui sont d'autant plus aptes à capter quelque chose de la sensibilité atmosphérique qu'elles occupent une posture de décentrement. Là, je pense en particulier, de façon très très concrète, à un très très beau texte de Virginia Woolf qui parle de la maladie. Et elle nous dit comment, dans ce court essai, comment la maladie en fait la conduit à transformer les conditions même de son expérience. On est couché, donc on regarde le ciel alors qu'on ne le regarde jamais habituellement. On est immobile, etc., etc. Et que toutes ces conditions-là, d'être malade, la conduit à développer une forme de sensibilité particulière qui est relative à sa maladie et à sa condition à un moment donné. Je pense qu'il y a d'autres catégories comme ça. Il y aurait, je pense, effectivement, un vrai travail très intéressant, à mon avis, à faire pour se dire, mais cette sensibilité atmosphérique dont je parle, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est homogène, qui est partagé, qui est... Non, il y a bien sûr... Et bien sûr, il y a aussi les personnes... électrosensible, et bien sûr, il y a, etc., etc., il y a tout un ensemble de catégories de personnes hypersensibles qui sont avec lesquelles on peut sans doute beaucoup apprendre. Donc, je suis absolument d'accord pour dire qu'il ne faut pas en faire un gros tas de façon homogène et qu'évidemment, il faut rentrer dans des choses beaucoup plus précises et différenciées. Et bien sûr, je crois que le travail même de l'anthropologie ou de l'ethnologue de terrain, par son travail de décentrement par rapport à ses schèmes de perception habituels, etc., il est amené justement à mettre en variation, disons, ses façons de sentir et de ressentir. Roland Barthes, par exemple, dans un très beau texte sur le Japon, nous dit, ben, en fait, quand j'ai visité le Japon, c'était très intéressant parce que je ne parle pas la langue. Et donc, ce que disaient les gens, je ne comprenais pas intellectuellement ce qu'ils disaient. Par contre, j'étais beaucoup plus sensible à la tonalité de leur voix, de leurs paroles, c'est-à-dire qu'il accédait à une autre couche, disons, de compréhension de la parole qui passait plus par le langage articulé, enfin, qui n'était plus de l'ordre d'une compréhension intellectuelle, mais qui était plutôt de l'ordre d'une sensibilité à des affects vocaux, à des tonalités de voix, par exemple. Donc on voit bien comment des situations particulières peuvent, à mon avis, permettre d'exercer cette forme de sensibilité. Mais je suis d'accord, de toute façon, évidemment, il ne s'agirait pas de vouloir homogénéiser tout ça. Je pense qu'il faudrait rentrer dans des distinctions beaucoup plus fines et opérantes.
Merci Jean-Paul. C'était comme une session de méditation qui a commencé par la vidéo et qui a terminé avec la même vidéo. Et pendant ton discours, il y avait plein de choses que je n'ai pas pu comprendre peut-être avec tous ces détails, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'était de rester dans nos flous. Donc je vais juste parler de quelques réflexions qui m'ont fait penser ton discours. C'était, voilà, est-ce que... Donc, en fait... Les gens qui essayent de comprendre les différents goûts de vin, par exemple, on peut apprendre de sentir, on peut apprendre de distinguer les différentes, voilà, les goûts. Est-ce que donc le monde sensible, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se sensibiliser pour comprendre le sensible et pour comprendre, pour mieux saisir les atmosphères auxquelles on n'avait pas peut-être aptitude peut-être de capter. Donc, c'est une formation. Enfin, c'est une formation qui peut être développée. Donc, c'est une question un peu ouverte. Sensibilisation au monde sensible. Parce que notre travail, c'est de s'intéresser à l'espace en tant que spécialiste de la ville ou des bâtiments. Mais tout le monde n'est pas sensible à toutes ces dimensions. Et je me rends compte de ça quand je discute avec les autres collègue qui ne vient pas de l'urbanisme mais qui vient de d'autres domaines. Donc ça reste, est-ce que cette question de sensibilité des ambiances ou sensibilité atmosphérique justement ne concerne pas pour l'instant juste une minorité des personnes qui est déjà connectée à ce monde académique, ou voilà, pardon si c'est pas très clair. Et une autre chose, c'était une autre question, une réflexion sur l'ambiance perdue. En t'écoutant, comme si tu parlais aussi des ambiances qu'on n'a pas pu capter, qu'on n'a pas pu enregistrer. Enfin, il y a des ambiances qui disparaissent si les chercheurs ne travaillent pas sur une captation des ambiances différentes qu'on trouve dans nos villes, quand il fait beau, quand il pleut ou quand il y a beaucoup de vent, quand il y a eu cette tempête la semaine dernière. Donc il y a eu plein de changements d'ambiance et qui ouvrent un regard très différent sur la ville. Donc est-ce que dans ce que tu dis, il n'y a pas aussi une... dans les méthodes qu'on doit développer pour capter les ambiances, on ne va pas pouvoir aussi capter les ambiances avant qu'ils disparaissent? Je ne sais pas si c'est clair. Je m'arrête ici. Merci encore.
Bien, merci pour les questions. Alors, pour la première, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que cette sensibilité dont je parle, elle se cultive. Elle se cultive d'un point de vue très pratique par l'exercice même des sens. C'est-à-dire qu'elle n'en passe pas par une intellection ou par une position intellectuelle, c'est-à-dire « je voudrais », etc. Je pense que c'est vraiment des pratiques extrêmement simples et élémentaires qui permettent de cultiver cette sensibilité. Exemple très très simple, avec des amis, collègues, chercheurs, on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps à travailler sur la thématique de la respiration. Et on a travaillé un répertoire d'anecdotes qui ont trait à la respiration. Donc on a comme ça 100, 150 micro-récits qui ont trait à la respiration. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait de ça et comment est-ce qu'on peut rendre et communiquer ces micro-récits-là, les rendre publics. Et une façon, une solution ou une idée qui est venue a consisté à dire, mais si on essayait de les oraliser, c'est-à-dire de les lire vocalement et de s'enregistrer. Et là, typiquement, on a été dans un apprentissage très, très pratique, très concret, consistant à apprendre à vocaliser des récits qui ont trait à la respiration et donc qui nous demandaient aussi de pratiquer concrètement la respiration, notre respiration en train de lire ces textes-là. Et là, c'est typiquement un exercice pratique qui nous a fait prendre conscience ou qui nous a fait, d'une certaine manière, incorporer ce rapport entre respirer et verbaliser ou vocaliser. C'est-à-dire que on est, bien sûr, dans les exercices. Dans l'exercice, je pense que le monde de l'art, il est par excellence, par définition, dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'on assiste à telle ou telle performance ou installation, etc. Eh bien, nous, on est mis dans des conditions qui font qu'on est un peu déplacé par rapport à nos routines perceptives et sensorielles, et que c'est ce déplacement-là, travail de défamiliarisation, d'une certaine manière, des routines, qui fait que notre corps est amené à explorer d'autres versants. Et là, encore, d'un point de vue très pratique et très opératoire, pas du tout intellectuel. Voilà, donc ça, c'est une première, peut-être, piste, de dire, effectivement, ça passe d'abord et avant tout par de la pratique. Et après, je ne crois pas du tout que ce soit le propre du chercheur, je pense au contraire. Il me semble qu'on est dans un moment où ces exercices-là... les conditions dans lesquelles nous sommes maintenant tendent plutôt à favoriser une expérience commune de ces exercices. Pensons le Covid, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne se posait pas la question de la respiration, jamais. Il apparaît. Là, il y a eu un renversement complet, on porte un masque, on ne porte pas un masque, comment est-ce qu'on porte un masque, à quelle distance, etc., etc., etc. Donc là, il y a eu une explicitation en fait, de conditions dans lesquelles on baignait, qui n'étaient pas du tout thématisées, qui étaient complètement allant de soi. Et puis on a appris. On a appris à vivre avec, à respirer d'une certaine manière, à gérer des espaces collectifs de respiration, etc., etc., par de la pratique aussi, et par la construction de codes et de normes, de conduites nouvelles, mais qui incorporées. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, peut-être qu'on est à un moment où cet apprentissage-là, il est rendu peut-être nécessaire, ou en tout cas presque commun, quand on est confronté à certains phénomènes, comme celui-ci, par exemple, mais peut-être d'autres aussi. Je ne me souviens plus de la deuxième question, par contre. À l'ambiance perdue. Ben là, on a eu déjà pas mal de travaux hein, sur ces questions-là. C'est-à-dire les travaux qui existent sur cette question-là, c'est en fait, j'en ai pas parlé du tout ou en sous-entendu, mais évidemment, une ambiance, c'est pas uniquement l'espace ici et maintenant. C'est bien sûr toute une mémoire des lieux, une histoire, une mémoire habitante, une mémoire du corps, etc., qui se joue aussi dans une ambiance. Donc, quand je prends part à une ambiance, c'est aussi ce passé-là. Alors, il y a eu des travaux sur l'ambiance comme un palimpseste. Hein, donc, voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire on est toujours dans de l'ici et maintenant, mais il s'agit bien de se dire qu'on a toujours affaire à des couches très, très complexes, en fait, de survivance, de phénomènes passés, d'histoires passées, d'événements passés, d'habitudes qui persistent, qui perdurent, etc., qui sont encore là. Et donc, voilà, ce travail-là de stratigraphie, presque, ou de l'ambiance, c'est quelque chose qui a déjà été mené, et je pense qu'il est encore très, très actuel et pertinent. Oui.
Peut-être une dernière question ?
Bonjour. Alors moi, je suis étudiante à l'ENSA Nantes et stagiaire donc au laboratoire du créneau. Et en fait, je voulais rebondir à quelque chose que vous aviez évoqué lors de la précédente question sur la mémoire des corps, qui est quelque chose qui, à titre personnel, m'interroge beaucoup. Et sur le, enfin, je m'interrogeais sur comment est-ce qu'on compose justement avec d'éventuels traumatismes aussi de sensibilité. Sur la question aussi du soin, comment les lieux partagés, comment les milieux ambiants communs, eh bien, ils peuvent peut-être participer d'un soin, on va dire, d'une réparation, en tout cas d'une manière de renouer avec sa sensibilité, sur justement comment est-ce qu'on retrouve son éveil sensible si on a des formes de trauma, on va dire, individuels.
Bon, c'est une question très importante et qui est évidemment... enfin, je crois, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse. En tout cas, il existe tout un courant de la psychiatrie qualifié d'existentiel qui se pose précisément cette question-là. Donc des penseurs comme Vince Wenger ou Minkowski se posent très précisément cette question-là, c'est-à-dire comment est-ce que l'ambiance... Alors chez Minkowski, par exemple, il nous dit « Notre rapport équilibré au monde suppose un rapport à la fois de fusion et de distance par rapport aux ambiances. Si notre rapport est trop fusionnel, on est en fait complètement immergé et agressé par le monde, donc on a besoin de distance. Mais si on est trop à distance, à ce moment-là, on perd contact au monde. Donc il y aura un équilibre très fin à trouver entre la fusion et la distance, hein, entre la schizoïdie et la syntonie, si vous voulez prendre ces termes. Alors peut-être qu'une réponse, mais là encore, il faudrait bien sûr être beaucoup plus spécifique à quel type de pathologie et quel type de problème on a affaire, etc. Et je pense qu'ils n'ont pas la même réponse du tout. Mais peut-être que, de façon très très générale, c'est peut-être la question de l'enveloppe, justement, qui se joue. L'enveloppe, l'ambiance comme une enveloppe par rapport au monde, une enveloppe qui est poreuse, mais qui peut être plus ou moins poreuse. Et donc cette porosité de l'enveloppe, il y a eu des très très beaux travaux il y a longtemps sur l'enveloppe du soi. Hein. Le fait de travailler sur des ambiances, même en termes spatiales, permet et consiste à se demander aussi à quel type d'enveloppe sensible on a affaire, dans quelle mesure est-ce que l'enveloppe qu'on construit est protectrice et permet la fluidité, permet la porosité. Il y a eu, il y a très longtemps, déjà une thèse sur l'habitat ou des espaces d'enfants ou d'enfants autistes, par exemple. Et cette question de l'enveloppe, elle est, je pense, elle est très, très centrale. Alors, je ne dis pas qu'il y a une solution, mais peut-être que, évidemment, tout dépend de la pathologie ou du problème, mais elle est sans doute très importante pour poser cette question-là de que faire, en fait, dans le cadre de traumatisme ou de complexe particulier, quoi.
Merci beaucoup, Jean-Paul. Je vous propose qu'on s'arrête là. Et nous vous invitons à partager quelques petites nourritures orientales dans le foyer. Alors, il y a le cocktail, il y a aussi une bibliothèque éphémère qui vous est proposée tout au long du colloque, où vous allez retrouver quelques articles, quelques ouvrages de collègues et d'un certain nombre d'intervenants sur ces 3 jours. Donc n'hésitez pas aussi à aller consulter tout cela. Merci encore, Jean-Paul. Merci.